Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald.
C'est moi, et je suis seul ce soir avec Bernard une nouvelle fois. Nous sommes tous les deux seuls face au monde entier. Ce soir, c'est une émission qui sera donc consacrée au Festival Comic Out, dont c'est la troisième édition. C'est une édition qui est un peu différente des deux premières, puisque fort de l'expérience justement des années précédentes, les organisateurs, donc Jocelyn Philippot et Stéphane Cazès, ont réorienté un petit peu leur démarche par rapport donc au Festival Comic Out. Alors celui-ci a débuté déjà depuis dimanche et se termine ce soir, le 1er juin, et nous avons à l'occasion donc de l'inauguration du festival donc récupérer une interview de Stéphane Cazès qu'il a eu l'amabilité de nous accorder et que nous allons entendre immédiatement. À tout à l'heure. Alors nous sommes aujourd'hui dimanche 29 mai 2016 et nous sommes au centre LGBTI de Lyon en compagnie de Stéphane Cazès.
Bonjour. Effectivement, je m'appelle Stéphane Cazès, je suis le directeur du Café Théâtre Le Boubouy, du Café Théâtre Le Rideau Rouge et aussi l'organisateur du Comic Out Festival qui se tiendra du 29 mai au 1er juin au Rideau Rouge, au Boubouy, au Complexe du Rire et au Tonton Flingueur.
Alors, le Comic Out Festival, c'est la troisième édition, si je ne me trompe.
Absolument, on a fait trois éditions.
Alors, de quoi s'agit-il exactement ?
L'idée, c'est de promouvoir, à travers un festival, l'humour gay et lesbien, gay friendly. C'est-à-dire, on a constaté avec Jocelyn Philippot, qui est le directeur artistique, on fait ce métier depuis de nombreuses années, on programme, j'ai tenu un gros théâtre à Avignon, j'ai produit des artistes comme Stéphane Guillon, Jérôme Commandeur, etc. Et il y a beaucoup, beaucoup de spectacles qui sont sur cette thématique-là. Et l'idée, c'était de les réunir sur 3-4 jours, et puis de développer, alors pas forcément des vedettes, mais justement faire découvrir au grand public des jeunes artistes qui développent ce genre d'humour avec des styles totalement différents. Ça va du plus sérieux, revendicatif, etc., à des spectacles très légers, etc. Mais le thème central étant la thématique gay et lesbien.
Alors, qui sont les artistes qui vont venir au Comic Out ?
Alors, on va commencer par une pièce, une création d'une troupe lyonnaise, création ce soir. Enfin, alors, je ne sais pas quand est-ce que ça va être diffusé. Alors, on a commencé le 29 mai avec une création qui s'appelle P.B. Jones, par un jeune auteur qu'on aime bien, qui s'appelle Timothée Moina. Ensuite, demain, donc le 30, vous avez Tristan Lopin, au Boui-Boui, c'est complet. Tristan Lopin, il est très connu des gens qui aiment les youtubeurs, le web-humour, etc., puisque chaque fois qu'il fait une vidéo, bah, il dépasse le million de vues. Donc, on a été très surpris, mais ça a été complet tout de suite. Et puis ensuite, au Complexe du Rire, vous avez La Thérapie pour tous, qui est une comédie par une troupe lyonnaise, qui, à mon avis, reste plus beaucoup de place. Et ensuite, on clôture le festival au Tonton Flingueur avec un jeune artiste qui s'appelle Julien Duchanois, c'est une création, et une troupe lyonnaise aussi qui s'appelle Homogène.
Les années précédentes, il y avait eu des têtes d'affiche, je pense par exemple à Shirley Soignon. Cette année, ce sont plutôt des compagnies ou des personnes moins connues.
Oui, absolument. On avait même eu Océane Rosemary, on avait eu les Lascarguet. C'est une question de budget, en fait. On avait plus de budget les autres années, donc on pouvait se permettre de faire venir des artistes qui avaient plus de notoriété. D'un autre côté, on avait constaté les autres années, parce qu'on est en Lyonnais et très attaché à notre ville, Jocelyn et moi, on avait fait en sorte qu'il y ait des places pour les artistes lyonnais confirmés ou en devenir ou en création. Et on avait constaté qu'il y avait un réel intérêt du public pour découvrir les jeunes artistes lyonnais. Alors, les deux conditions, eh ben, elles ont fait que cette année, le budget ne nous permettait pas de faire venir des têtes d'affiche, clairement. Mais d'un autre côté, comme on avait constaté une forte demande du public pour les artistes locaux, encore que Tristan Lopin est parisien, eh bien, on a préféré faire une édition avec plus d'humilité, mais en étant sûr qu'elle soit rentable et qu'on puisse envisager une quatrième édition, peut-être cette fois-ci avec un peu plus de moyens.
D'accord, donc vous souhaitez la pérennité du festival.
Oui, on aimerait évidemment, quand on se lance dans ce genre d'aventure, c'est pour que ça s'inscrive dans le temps, c'est pour que ça grandisse, mais il faut, on a constaté par rapport aux premières éditions où on s'était un petit peu emballé, que au final toute aventure, si elle n'est pas viable économiquement, elle est vouée à l'échec à un moment donné, parce qu'on peut pas se permettre, enfin C'est sûr que je suis pas là pour parler d'argent, mais c'est bien aussi que les gens comprennent que les artistes, il faut les payer, la publicité, il faut la payer, les salles, il faut les payer, et qu'à un moment donné, vous pouvez avoir le plus beau projet de la Terre, s'il est déficitaire une fois, deux fois, bah, la troisième fois, vous pouvez pas le remonter, à moins de trouver un mécène, mais par les temps qui courent, c'est très compliqué. Donc avec Jocelyn, on était très attachés à ce festival parce que on aime bien cet humour, on aime bien cet univers, on aime bien cette communauté. Et puis avec tout ce qui s'est passé au niveau politique et tout, on s'est dit que c'était pas plus mal de réunir les gens en disant qu'on pouvait rire de tout si c'était intelligent et on pouvait aussi aider des jeunes artistes lyonnais. Enfin, on y était attachés. Donc on s'est dit, si on veut que ce soit pérenne, on va commencer, on va relancer déjà le festival par une édition qu'on maîtrise complètement au niveau économique. Et puis, si cette édition est un succès, eh ben, on ira pas à pas, on grossira, plutôt que de vouloir être trop gourmand, trop ambitieux, et puis au final, ça s'arrête. Et là, d'ores et déjà, avec les réservations qu'on a, et c'est moi qui ai tenu les cordons de la bourse, donc je peux dire que on perdra pas d'argent. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que je peux me permettre de m'inscrire déjà dans la philosophie de la quatrième édition, puisque je sais que la troisième édition sera bénéficiaire.
Alors souvent on entend parler de communautarisme et ça a une notion un peu péjorative en France, on dira. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on vous accuse justement d'être communautariste ?
Alors tout le sens de notre démarche, c'est d'éviter évidemment cette critique. C'est d'abord parce que c'est ouvert à tout public, qu'on est dans des cafés-théâtres qui sont le symbole du grand public, hein, que ce soit le Bougou de Rideau Rouge, les Tontons Flingueurs ou le Complexe du Rire. On n'est pas dans des lieux estampillés spécialement communauté gay, c'est ouvert à tout le monde, tout le monde peut venir. Et l'idée, c'est de faire découvrir cet humour-là sous un autre angle, en se disant, ben voilà, on se revendique de cette communauté, mais à la fois, c'est ouvert à tout le monde, c'est positif. C'est friendly, on est là pour rigoler. On vous propose des spectacles un peu différents qu'on ne pourrait peut-être pas mettre tout au long de l'année parce que le public n'est pas assez large pour qu'ils tiennent l'affiche. Mais sur un soir ou deux soirs, ben, soyez curieux, venez découvrir, venez rire avec nous, venez échanger, venez discuter, créons le débat autour de valeurs, de tolérance et puis d'humour parce que c'est notre métier, on a envie d'en rigoler. Après, chacun est libre de participer ou pas, mais franchement, on ne ferme la porte à personne, que les choses soient claires.
Il est vrai que certaines pièces à sujet LGBT, on dira, ont beaucoup de succès auprès d'un large public, en fait. Au Complexe du Rire avait été montée une pièce qui s'appelait Saint-Valentin, que nous avions vue, et c'est vrai que le public présent était un public très généraliste.
Ah ben, je connais bien Saint-Valentin, puisque c'est Jocelyn Flipeau qui l'a écrite, et comme je suis professionnellement l'agent de Jocelyn Flipeau, eh bien, j'ai œuvré pour qu'elle joue à Paris. Elle a été reprise à Paris par Jean-Pierre Bigard, et on a tenu une demi-saison à l'affiche de la Comédie de Paris. C'est une excellente pièce qui illustre tout à fait ce qu'on revendique avec Jocelyn, c'est-à-dire cette thématique-là, mais où tout le monde peut se reconnaître. Parce qu'au final, Saint-Valentin, en deux mots, c'est un galériste qui s'éprend d'un de ses jeunes peintres et qui, à la base, était hétérosexuel et se découvre un amour physique à la fois et moral pour ce jeune peintre et qui se questionne et qui au final se dit le plus important c'est pas de savoir si je suis gay ou pas gay, c'est est-ce que je suis amoureux ou pas. Donc au final c'est une histoire d'amour.
C'est une pièce, nous, on l'a vu au Complexe du Rire. Oui. Je l'ai vu au Complexe du Rire et qui enfin le public était globalement on va dire hétérosexuel.
Oui, bien sûr. De toute façon c'est le principe du Comic Out Festival, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'arriver avec votre drapeau arc-en-ciel sur votre chemise pour rentrer, quoi. L'idée c'est de venir découvrir des styles d'humour. Alors on est aussi volontairement avec Jocelyn axé la programmation sur des gens qui n'étaient pas forcément reconnus, qui avaient envie de se faire connaître, et l'idée c'est soyez curieux, venez, on est autour de cette thématique là parce qu'on a besoin aussi de rire, on a besoin de se détendre, on a besoin d'apprendre, on a besoin de découvrir, mais surtout pas c'est pas une exclusivité pour la communauté gay. Après le centre LGBTI nous accueille, nous soutient, la mairie nous soutient, Hétéroclite nous soutient, vous nous soutenez aussi et c'est formidable. Vous êtes tous les gens que j'ai rencontrés sont des gens qui sont d'une grande ouverture d'esprit, qui sont pas refermés sur eux-mêmes et tant mieux. Il est peut-être possible que l'année prochaine on soit associé à la Gay Pride, c'est ce qui a été évoqué. Bon, bah, la Gay Pride, pour moi, c'est pas un événement qui est exclusivement réservé à la communauté gay. Tout le monde peut venir faire la fête sur la thématique de la liberté, de l'ouverture, etc. Nous, on fait ça à notre petit niveau sur l'axe de l'humour, mais ça s'inscrit dans ce genre de démarche pour dire on a le droit d'en rire. On a le droit d'avoir plusieurs formes d'humour, on a le droit de découvrir des artistes et on a le droit d'exister tout simplement, quelles que soient nos orientations sexuelles. J'étais dans une radio ami de la vôtre il y a quelques jours où je parlais de ça et il me posait un peu les mêmes questions parce que c'est vrai que c'est une question qui est importante et je disais je vais pas à l'entrée de la salle demander l'orientation sexuelle des gens, vous voyez, ça n'a pas de sens.
Le contenu des spectacles, est-ce que c'est un contenu qui est accessible à tout public? Est-ce qu'il y a des clés pour certains qu'il faut posséder ou aussi est-ce que c'est accessible à un public familial, dira-t-on?
Alors, la volonté qu'on a avec Jocelyn, c'est que ce soit tout public. Et on a aussi une volonté, c'est de laisser entière liberté aux artistes. Dans le cas du spectacle Les Aventures de Phoebe Jones, je ne peux pas vous en parler, c'est une création à 100%. Mais, pour répondre à votre question, si dans familial, vous pensez aussi accessible aux enfants, eh bien, je pense que non, parce que, par exemple, dans Les Aventures de Phoebe Jones, si on lit le pitch, c'est un garçon amoral, bisexuel, qui profite de sa beauté pour séduire des gens, etc., etc. Donc, on est sur des thématiques sexuelles qui ne sont pas forcément gays ou hétéros. C'est pas le problème, c'est que c'est des thématiques sexuelles. Et des thématiques sexuelles, je ne pense pas que ce soit l'idéal pour les enfants, quelle que soit l'orientation. Après, généralement, au café-théâtre, les comédies traitent souvent ou rigolent souvent des problématiques sexuelles, etc. Donc, rares sont les spectacles qui sont vraiment familiaux. On en a, évidemment, plutôt d'ailleurs en matinée, au Rideau Rouge ou dans les autres cafés-théâtres, il arrive qu'il y ait des comédies qui soient tout public de 7 à 77 ans. Pour le coup, là, je dirais, c'est tout public dans le sens où vous n'êtes pas obligé d'être un affranchi des codes de la communauté gay pour venir rigoler de ce qui va se passer. C'est pas élitiste. C'est tout le sens de notre démarche, justement, c'est d'arriver à ouvrir et à ouvrir le champ et que tout le monde puisse venir rigoler sur des thématiques qui sont un petit peu différentes que la caricature classique de l'homo, c'est-à-dire en gros la cage aux folles. J'ai beaucoup de respect pour la cage aux folles. C'est un spectacle, on peut aimer ou pas aimer, mais c'est devenu un classique du boulevard. Mais là, on a Jocelyn qui a fait la programmation à privilégier des thématiques différentes que celles dont on peut parler. Mais j'insiste, c'est important pour vos auditeurs, c'est que c'est ouvert à tout le monde, quoi. Tout le monde peut venir se marrer, des spectacles qu'on propose, etc. Et il faut avoir un petit peu de curiosité en disant, tiens, est-ce qu'on peut venir rigoler de ce genre de thématiques? Et chacun des spectacles est complètement différent. Donc ils traitent tous à leur façon, selon leur angle de vision, et avec une entière liberté de cette thématique-là, sachant qu'ils ont aussi, c'est aussi une façon pour eux, les artistes qu'on a invités, c'est de se montrer. Si le spectacle est très très bon, moi en tant que directeur de théâtre, je vais me dire pourquoi pas le programmer sur une plus longue période. Donc c'est aussi, il y a un côté pour eux aussi économique, c'est-à-dire qu'on leur permet de venir présenter leur travail dans le cadre d'un festival et de séduire. Il y a quand même 4 cafés-théâtres qui ne sont pas des moines sur Lyon, qui sont partenaires de cet événement. À eux de faire des belles créations, de montrer que c'est drôle, que ça fonctionne, que le public repart content. Et puis peut-être que ça débouchera sur des programmations plus longues. C'est aussi un des buts pour la saison prochaine. Ça sera aussi un axe qu'on va développer, c'est de dire, venez nous montrer votre travail. Nous, on donne 2 thèmes, grand public et humour gay et lesbien. Et à vous aussi de travailler dans ce sens-là et de montrer qu'on peut séduire un large public avec des choses intelligentes et drôles.
Est-ce que les artistes qui participent donc au Comic Out le font aussi dans un, comment dire, dans une, ils voient un peu un aspect militant aussi, voilà, dans le fait de participer à ce type de festival?
Je pense qu'effectivement, ce sont des gens qui s'assument et qui se revendiquent en tant que tels et qui, à travers leur capacité à créer, donc là, on est sur des pièces humoristiques, ne sont pas clandestins. Ce ne sont pas des gens qui se cachent derrière. Je respecte, encore une fois, je ne suis pas là pour juger. S'il y a des gens qui n'ont pas envie d'en parler, c'est un problème personnel. Mais là, pour le coup, les artistes qui ont fait le choix de participer, c'est très dit ouvertement, quoi. D'où le titre, le Comic Out Festival. Ils ont fait leur coming out il y a longtemps. Pour extrapoler un peu sur votre question, on a un volet plus éducatif. Alors, on a eu du mal à le développer cette année parce qu'il fallait déjà remettre le festival en route, mais les autres années, on avait en marge du festival ouvert la porte aux associations qui, certaines, avaient souhaité faire des colloques, des masterclass, des rendez-vous, de la prévention, etc. Alors, cette année, comme le festival s'est bouclé un peu sur le tard, on n'a pas pu encore remettre toute cette machine en route, mais pour Jocelyn et moi, c'est important qu'en marge du festival, il y ait la possibilité de faire de la pédagogie, de l'éducation. Et les artistes qui participent au festival en ont conscience. Donc, ils soutiennent quelque part, mais à la marge, on va dire, parce que c'est pas le cœur de leur démarche. Le cœur de leur démarche, c'est de faire une œuvre artistique. Mais ils ont conscience qu'il y a une dimension supplémentaire, ne serait-ce que parce que le festival s'appelle le Comic Out Festival et qui se revendique en tant que tel. Donc, un artiste qui participerait à cette manifestation en disant, bah, moi, je sais pas du tout qu'est-ce que je fais là, et puis ça me regarde pas, etc., ce serait trompé, et nous serions trompés aussi. Maintenant, ils sont libres de militer, entre guillemets, de la façon dont ils veulent et comme ils veulent. On leur donne pas un mégaphone en leur disant « Allez-y, faites une tribune ». Mais artistiquement, quelque part, ils s'assument, ils s'exposent et ils se revendiquent. Et nous, on les soutient dans leur démarche. Encore une fois, nous, on est pour que ce soit libre et que, quelque part, on puisse dire ce qu'on a envie de dire, comme on a envie de dire, sans qu'il y ait aucune contrainte, à partir du moment où on s'adresse au plus grand nombre et qu'on est symbole de tolérance et d'humour.
Donc, est-ce que pour vous, organisateur du festival, Jocelyn Philippot et vous-même, Stéphane Cazès, c'est aussi une démarche militante que vous faites, aussi bien qu'artistique?
Oui, il y a un peu des deux. Moi, j'ai été... Pour parler un tout petit peu de politique, même si c'est pas mon propos, j'ai été choqué par tout ce qui s'est passé, le mariage pour tous, etc., l'homophobie, tout ce qui remonte aujourd'hui dans la société française. Je suis citoyen, donc ça m'interpelle, et à mon tout petit niveau à moi, attention, hein, j'ai aucune prétention, je me dis, ben moi je suis programmateur. Je connais bien le métier de l'humour, je connais bien les artistes. Qu'est-ce que je peux faire pour amener mon tout petit grain de sable, ma toute petite pierre, aider. Bon, ben, moi, je peux organiser un festival d'humour et dire, voilà, il y a des gays avec qui on rigole bien, il y a des lesbiennes qui sont très talentueuses. Je pense à Océane Rosemary, qu'on avait fait venir à Lyon, qui a un spectacle exceptionnel, qui est une grande artiste. Et tout le monde peut rigoler avec eux. Et par pitié, ne faisons pas des cloisons, des clans, ouvrons. Il n'y a pas d'un côté les méchants et les gentils. Soyons libres, apprécions l'artistique, laissons les gens vivre leur sexualité comme ils en ont envie. Nous sommes des citoyens. La sexualité ne devrait pas intervenir, pour moi, dans le fait d'obtenir des droits ou pas des droits. On est tous pareils, on a les mêmes droits. Et tout ce débat sur le mariage pour tous, c'était quelque part, pour quelqu'un comme moi, qui est pour la liberté et l'égalité et la fraternité, ce qui est marqué sur les frontons des mairies françaises, c'était difficile à vivre, en se disant, ben, pourquoi il y a cette levée de bouclier? Qu'est-ce qu'il y a de si terrible derrière tout ça? Bon, voilà. Alors, c'est pour vous dire que tout ça nous interpelle et qu'avec Jocelyn, on s'est dit la meilleure façon de répondre pour nous, c'est d'organiser ce festival en disant, ben, on peut rire et avec tout le monde et entre nous, de la plus belle des manières qui soit, qu'en voyant des artistes sur scène. Voilà, c'est une démarche qui n'est pas, j'en tire pas de gloire ou quoi que ce soit. Je demande pas de médaille. Hein, c'est juste pour dire, voilà, notre petit niveau à nous, ce qu'on sait faire, c'est du spectacle. Donc, on va faire un spectacle, un événement pour dire, ben, on est bien tous ensemble.
Ben, en tout cas, merci Stéphane Cazès d'avoir accepté notre invitation, notre interview. Alors, l'année prochaine, on s'y prendra peut-être un petit peu plus tôt, de façon qu'on soit plus dans l'événementiel.
C'est notre faute à nous. On a eu du mal à relancer l'événement parce que, voilà, on a des petits moyens, c'était compliqué. Mais une fois qu'on s'est lancé, on y a été. Et puis, on a tapé aux portes et on a conscience que les gens, ben, ils ont fait de leur mieux compte tenu de leurs moyens. Et vous êtes déjà là et c'est bien.
On sera là l'année prochaine, en tout cas. On essaiera d'être là un peu plus tôt, puisque l'interview, donc, du coup, est diffusée alors que le festival se termine.
Pas grave.
Mais on continuera à assurer l'information pour les années à venir.
Merci beaucoup.
Merci, en tout cas, Stéphane Cazès, d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Bon festival.
Merci.
Et à l'année prochaine. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in, my world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say, hey world, I am.
Different angle. Your life is a sham till you can shout out loud, I am what I am. I am what I am, and what I am needs no excuses. I deal my own deck. Sometimes the deuces. There's one life, and there's no return and no deposit. One life, so it's time to open up your closet. Life's not worth a damn till you can say, hey world, I am.
Pluriel Gay.
Voilà, c'était I Am What I Am, extrait de la comédie musicale La Cage aux Folles. Stéphane Cazès, dans notre interview, évoquait donc la pièce de théâtre La Cage aux Folles, qui a donc donné un remake à Broadway. Donc le Festival Comic Art, on a entendu, il se termine ce soir. Hein. Donc ce soir, il est encore temps d'y aller. À 21h30, c'est le dernier spectacle du festival. Donc c'est au Tonton Flingueur, rue Romarin dans le premier, et c'était avec une compagnie qui s'appelle Le Bourdon et qui présente un spectacle qui s'appelle donc Homogène. Voilà, c'est à 21h30. Après l'émission, si vous courez bien, vous pourrez peut-être attraper le dernier spectacle du Comic Out, sinon rendez-vous l'an prochain pour la 4e édition. Alors ce qui va suivre maintenant, j'ai voulu rester un petit peu dans le move, je dirais, du Comic Out l'an dernier, donc c'était la seconde édition, donc. Et comme disait Stéphane Cazès, il y avait eu des têtes d'affiche, notamment Shirley Soignon, l'humoriste Shirley Soignon, qui s'était produit au Comic Out. Et à l'occasion, Laurence, que nous saluons au passage, et ça va être l'occasion de la faire revenir un petit peu à l'émission, avait interviewé Shirley Soignon. C'est cette interview, donc, que nous allons entendre tout de suite. Donc, c'est pas d'actualité, hein. Certaines références ne sont pas actuelles, mais elles correspondent à l'an dernier, je précise tout de suite. Par contre, Shirley Soignon sera à Lyon à nouveau, alors pas au Festival Comic Out, mais doit passer à la salle du Radiant à Caluire-et-Cuire les jeudis 9 et vendredi 10 juin. C'est parti.
Je suis avec Shirley Soignon, donc, qui vient présenter son nouveau spectacle à la Comédie Odéon ce soir. Lors du festival Comic Out, donc c'est la deuxième édition du festival Comic Out. Donc, merci.
De rien.
Là, vous venez présenter, c'est un nouveau spectacle ?
Oui, qui s'appelle Free, comme libre.
Ok,
ouais,
très bien.
Fait. Normalement, il y a des musiciens avec moi sur scène,
oui.
Malheureusement ce soir ils ne sont pas là.
Oui.
Mais c'est un spectacle qui parle de la liberté, de remettre en question la notion de liberté, parce que j'ai l'impression que la liberté c'est devenu quelque chose comme avoir un crédit, acheter une voiture oui. Et une maison. Donc je rappelle que la liberté, c'est même pas de sortir de prison, parce que la liberté, elle est en nous.
Mmh.
Et que c'est quelque chose qu'il faut aller chercher et qui évite énormément de colère. Je dis ça parce que, par exemple, tout à l'heure, en arrivant à Lyon, j'ai pris un taxi qui était très énervé de faire une course de 10 euros. Et donc je lui ai demandé s'il prenait la carte bleue. Il m'a dit non, je ne prends pas la carte bleue. Il a dit oh, vous auriez pu faire avant, machin. Il était super énervé. Vous ne savez pas, nous, combien gagne les taxis. Et là, il avait une colère qui, à mon avis, est un problème avec sa femme, lui, et qui est ressortie sur moi.
Non, c'est les taxis à Lyon, c'est normal.
Voilà, c'est les taxis à Lyon. D'accord.
C'est normal.
Vraiment, il y a un problème de taxi à Lyon. Mais en gros, voilà, cette colère, je ne l'ai pas comprise. Et si moi, j'étais aussi dans cette colère, on aurait eu une seule altercation. Et juste, il faut s'écouter, écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous quand ça se passe. Et en fait, ça parle beaucoup de l'instant présent, mon spectacle.
D'accord.
Être dans l'instant présent. Et j'essaie de faire ça avec les gens. Et le public n'a pas forcément l'habitude qu'on prenne la partie pendant un spectacle, qu'on lui parle, qu'on soit avec lui. Et du coup, on arrive à créer des vrais bons moments ensemble. Et donc, je parle de mon homosexualité, je parle de... de mes parents, je parle de ma fille, je parle de ma fille qui est un chien. Hein. Je nique la vanne pour le spectacle, mais en tout cas, pour ça je n'ai pas encore d'enfant. Et voilà, je pars à travers de ma vie, en fait, je raconte celle des autres.
Quoi. Ouais, d'accord. Donc ça va être un spectacle qui est assez interactif alors.
Complètement interactif, ouais.
D'accord.
Le but, c'est d'avoir l'impression d'être dans mon salon.
Voilà. Ok.
Mon salon est une scène de spectacle, mais ouais, d'avoir vraiment cette impression d'échange, d'être ensemble, ouais.
Ok.
C'est un vrai besoin. Actuellement, dans ce spectacle, j'ai ce besoin-là. Mon premier spectacle, c'était pas comme ça, par exemple. Mm. Mais là, j'ai besoin d'être vraiment avec les gens et qu'on soit autour du feu, quoi.
Ok, ouais. D'accord. Et donc ce spectacle, vous l'avez déjà présenté
à Paris, je l'ai présenté une fois à Paris, une fois à Toulon, oui. Et une fois à Bourg-en-Bresse. Me demandez pas pourquoi. je suis allée là où on a bien voulu de moi.
D'accord.
Mais voilà, du coup, non, j'ai joué trois fois avec les musiciens et on arrive à la rentrée à Paris et puis en tournée aussi. Et alors, on viendra aussi d'ailleurs à Lyon, à la Bourse du Travail, en juin.
Juin 2015. Alors.
En juin 2015, ouais.
Ok, très bien.
Ouais, un peu court là.
Donc là, il y aura tous les musiciens.
Ouais, tout à fait.
Donc ça fera combien de personnes en tout?
Bon, ça fera 4 personnes, hein, c'est pas une bande. Parce que j'entends tous les musiciens, je ne montre pas non plus. c'est un trio de soul et funk, jazz.
Ok.
Et c'est la musique que j'aime. Et pour moi, le rire et la musique, ce sont les deux énergies qui me font vivre et passer beaucoup d'épreuves. Et du coup, je pense que c'était nécessaire d'avoir de la musique pour faire passer certains messages que j'aimerais faire passer. Mmh. L'humour ou n'importe quel mot ne marche pas, en fait. Et alors que là où la musique le fait très bien. Mmh.
Donc vous allez chanter?
Donc je vais chanter aussi, ouais.
D'accord.
Ouais.
Beaucoup?
Ce qu'il faut pour pas qu'on se moque trop de moi.
D'accord, ok. En fait, on ne sait pas beaucoup de choses.
Non, c'est vrai.
Sur vous.
Mais c'est pareil pour moi. Je cherche ma vie.
D'accord. J'ai vu que vous aviez débuté dans le Jamel Comedy Club.
Oui, tout à fait.
Et la rencontre avec Jamel, elle s'est faite comment?
Ben, elle s'est faite quand j'étais déjà au Jamel Comedy Club, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelqu'un qui a recruté pour Jamel.
Oui.
Moi, je jouais au Comedy Club, il y a des scènes ouvertes. Mm. Et puis, de la scène ouverte, je passais dans la troupe, puisqu'ils ont aimé mon travail. Donc, ils m'ont proposé à la base de remplacer Claudia Tagbo, ce que j'ai trouvé très raciste, dans un premier temps. Qu'on fait pas du tout la même chose, juste deux femmes noires. Et du coup, j'ai dit non, si vous voulez me prendre, prenez-moi vraiment moi en tant que titulaire, quoi. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée dans la troupe.
D'accord. Okay. Et alors, moi, personnellement, je vous ai connue grâce à France 2,
oui,
l'émission de Laurent Ruquier. Et du coup, comment vous êtes arrivée dans l'émission?
C'est une bonne question. Je pense qu'on m'a tapé sur la tête et qu'on est là-bas, je ne me rappelle pas. C'est un blackout total. En fait, c'est tout au début de l'émission que je suis arrivée. Moi, je suis arrivée dans la première saison. J'avais rencontré Laurent Ruquier suite à un concours que j'avais gagné qui s'appelait La Route du Rire 2009, qui était sponsorisé par Volkswagen. Donc, j'avais gagné 3 cadeaux, une voiture, joué au festival de Montreux et puis un contrat chez Warner. J'ai eu le festival de Montreux.
Oui.
Voilà. J'attends toujours ma voiture.
Okay,
et le contrat, je l'ai eu, mais était tellement marrant.
Vous avez pas eu la voiture?
J'ai pas eu la voiture, en fait.
Mais c'est honteux.
C'est honteux, ouais, c'est honteux, en fait. C'est-à-dire que j'ai gagné le concours et à la fin, les mecs de Volkswagen sont venus me voir en disant ah, c'est super, bravo, alors vous avez le permis. Et puis moi, je dis non, ouais, salut. Et ils m'ont jamais rappelé.
D'accord.
J'aurais pu l'avoir, cette voiture, et la revendre.
Oui, fallait mentir, quoi.
C'est mon cadeau.
Fallait être prête à mentir.
Bah ouais, j'avais pas calculé que c'était un enjeu à ce point-là de dire que j'ai pas le permis. J'ai buvé du champagne, je m'en rendais pas compte. Et du coup, j'ai rencontré Laurent Ruquier donc au Festival de Montreux, que j'avais gagné, c'est lui qui présentait le gala. Donc il me connaissait, quand il a monté son émission, il m'a appelé pour que je fasse partie des candidats.
Mais,
en fait, comme nous, on a été beaucoup d'humoristes déjà à travailler pour commencer et pour lancer son émission, il n'avait pas des humoristes qui avaient déjà un peu de bouteille.
Oui.
Donc il m'a appelé, j'ai dit non. Et j'avais un producteur à l'époque qui m'a dit si, fais absolument le faire.
Pourquoi non?
J'avais pas du tout envie de mettre à l'épreuve mon travail, j'étais trop jeune pour ça. Et je le pense encore, j'étais trop jeune pour ça. Mais en tout cas, j'ai pris ce que j'avais à prendre, l'expérience que j'avais à prendre, mais j'ai pas du tout pu montrer ce que je voulais montrer. Puisque j'étais tétanisée, que je déteste les caméras, enfin les caméras dans le sens jugement, le public qui rigole mais il sait pas trop pourquoi. Enfin voilà, tout est en carton et c'est très très angoissant.
D'accord.
Donc si on a pas les dents qui raillent le parquet et puis une ambition folle, on se retrouve un peu perdu. Donc j'étais complètement perdue dans cette émission. Après, j'ai eu la chance d'avoir quand même des éloges et des critiques dithyrambiques, mais c'est vraiment, j'ai pas compris même.
C'est marrant que vous disiez ça parce que moi, justement, quand je vous ai vu chez Ruquier, où il y avait d'autres humoristes qui ont beaucoup de talent, c'est pas ça le problème, mais je trouvais vraiment que vous vous démarquiez du lot.
Ouais, bah c'est gentil, ouais, merci. Mais c'est à la force. Enfin, c'est-à-dire que moi, je devais. C'est là, j'ai une bonne comédienne déjà, donc je vous remercie. Mais c'est vrai que c'était pas facile pour moi en tant qu'être humain. J'ai vraiment beaucoup souffert de cette émission. C'est pas de leur faute. C'est oui. Moi qui ne supportais pas le concept.
D'accord.
Et donc, en plus, je déteste qu'on me force à faire quelque chose. Donc, du coup, j'étais vraiment très contrariée pendant 2 ans.
2 ans quand même. Ouais.
Mais non, mais ça m'a pris énormément de choses. Par contre, il y a des choses où je me suis dépassée. Du coup, déjà, dans le fait d'y aller, alors que je ne voulais pas y aller, je me suis dépassée. J'ai fait des mini perruques où je ne voulais pas du tout faire. Et puis, finalement, bon, je dis pourquoi pas. Et mais je me suis rendu compte surtout que mon travail, l'écriture du stand-up, c'était complètement plus compliqué et difficile qu'écrire un sketch.
Ouais.
En sketch, j'avais souvent des bonnes notes. Voilà, on arrive avec un personnage, on est caché derrière un personnage et on peut le faire délirer. Et si on oublie le texte, jouer du personnage.
Oui.
Quand on est soi-même et qu'on écrit quelque chose et qu'on veut défendre à quelque chose, et bien il faut vraiment avoir un texte en béton. Parce que quand vous n'avez plus le texte, vous êtes vous, c'était moi Shirley,
oui.
Face aux gens, c'était pas le personnage.
Oui, oui.
Et donc ça, il faut le maîtriser, quoi. Donc ça m'a vraiment donné de la bouteille sur mon métier et ma branche d'humour qui est le stand-up.
Oui. Mais du coup, le stand-up, donc, dont vous puisez. Du vécu, des choses personnelles
ouais.
Que vous réinterprétez sur scène. Mais vous gonflez un peu ou c'est vraiment...
Non, je gonfle de moins en moins en fait. C'est-à-dire ouais. Que plus ça va et moins j'ai envie de gonfler parce qu'en fait la vie est tellement déjà bien gonflée que c'est pas la peine. En fait j'essaie plus de faire rire et ça a changé ma vie. Depuis que j'essaie plus de faire rire, ça fait rire mais pour les bonnes raisons.
Ouais.
Ouais, j'essaie plus déjà d'être et puis c'est pas forcément ma vie que je vais raconter mais ça peut être un fait de société, un questionnement philosophique. Mais de ça, prendre ça et faire un développement, une thèse, une antithèse, une conclusion. Et avoir son avis sur les choses, en fait, donner son avis sur les choses. Et avoir un avis assez tranché. C'est ça le stand-up, en fait. Après, il y a vraiment, dans le stand-up, on va avoir différentes formes de personnalités, donc, qui vont plus parler d'eux, il y en a qui vont plus parler de sexe, qui vont plus parler de... Ça, c'est comme dans tout type d'humour,
ouais.
Finalement. Mais la vraie veine du stand-up, c'est pas du tout de faire partie des quartiers pauvres et populaires, c'est juste de savoir raconter quelque chose. C'est un peu des philosophes des temps modernes, les stand-upers, c'est un peu ça.
Des philosophes des temps modernes.
Ouais, c'est un peu ce que je dis, c'est quoi.
Et l'employeur là, qui pensait que vous appeliez, qui aurait pu se penser que vous appeliez Fatou,
ouais, ouais.
C'est du vécu ça.
Ça c'est pas mon vécu, mais c'est
ouais.
Le vécu que j'ai eu, enfin que j'ai entendu de pas mal de gens en fait, plus de 3 fois, et je trouve ça beaucoup déjà.
Ouais,
c'est-à-dire ouais. Qu'en fait, je connais une fille qui travaille d'ailleurs toujours à la radio, et son patron persiste à l'appeler Fatou alors qu'elle a un autre prénom qui est très joli, qui n'est pas du tout africanisé. Donc j'ai juste pas envie de dire son nom parce qu'elle travaille à la radio
oui,
et que
oui,
c'est une grande
oui.
Radio. Mais du coup, effectivement, des réflexes quoi. Est-ce qu'il m'en fait tout ? Oh non, pardon. Et c'est terrible quoi. Mais c'est terrible, ça m'est déjà arrivé de dire à quelqu'un Mamadou pour aucune raison. C'est-à-dire qu'il est noir et grand, je l'appelle Mamadou. C'est-à-dire qu'on est. Enfin, c'est pas du tout les blancs qui sont contre les noirs, c'est juste des clichés qu'on s'installe tous ensemble. Et que.
Ouais.
Et des fois, ça. Ouais. Ça peut paraître étonnant, mais ça arrive encore.
Mais c'est vous parce que l'employeur blanc.
Ouais.
Mais c'est carrément raciste, on peut le dire.
Bah ouais, mais les noirs peuvent être racistes entre noirs aussi.
Oui, certes.
C'est-à-dire ouais. Que, voilà, oui, c'est raciste, oui, totalement. Oui. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont racistes.
Ouais, ouais, c'est... Énormément. Je voulais juste revenir sur, on ne demande qu'à en rire, mais sur la partie compétition.
Mm-hmm.
Parce que du coup, on voit énormément de one-man show, il y a de plus en plus d'humoristes. Enfin, j'ai l'impression depuis 10-15 ans
ouais,
que le café-théâtre, par exemple, ce genre de choses, ça revient vraiment un peu à la mode, quoi.
Ouais.
Et... je suppose qu'il y a donc beaucoup de concurrence,
mm-hmm.
Mais du coup, je voulais savoir si il y a une compétition vraiment, ou s'il y avait, sur l'exemple de On ne demande qu'à en rire, où du
ouais,
coup il y avait
ouais.
Des notes, il y avait quand même un système de compétition.
Ouais.
Est-ce que entre vous, entre humoristes, ça se passait bien ? Est-ce qu'il y avait des tensions ?
Alors, en fait, la plupart des humoristes qui étaient là-bas, on se connaissait déjà depuis longtemps.
D'accord.
Donc, si ceux qu'on aimait pas, on les aimait pas déjà.
Ouais.
Mais enfin, moi, j'ai pas ce problème avec les gens parce que je les côtoie pas. ça évite les problèmes. Non, mais c'est juste que, en fait, c'est comme dans tout métier. C'est-à-dire que dans le boulot, on n'est pas pote avec tout le monde.
Oui.
Et,
ouais.
Et c'est vrai que souvent, quand on est humoriste, on oublie parce que comme on n'a pas vraiment, on n'a pas de cadre, on n'a pas de bureau, on se croise dans la rue, dans un théâtre. On sait pas vraiment si on peut
oui.
Être ami avec les gens aussi. Mais finalement, je me suis rendu compte avec le temps qu'on peut pas être ami avec tout le monde. Et en fait, non, la compétition, il y avait énormément de stress. On n'avait pas de temps d'être en compétition, on était tellement stressés pour nous-mêmes
ouais.
Qu'on n'était pas sur les autres, on était sur nos notes, qu'on allait avoir. Moi, ce qui me stressait, c'était le regard des autres aussi, des collègues.
Ils ouais.
Diraient, tiens, si je me loupe. Enfin, il y a aussi ce truc-là, effectivement, parce que c'est un truc en humour qu'on a partout, hein, même en dehors de la télé. quand on rate un passage, on a toujours cette petite tape dans l'épaule, dans le dos, qui fait très très mal. Voilà. Et après, j'ai entendu parler du passage de Chorley, hein, c'était pas top. Voilà, donc c'est ce truc-là que j'essaie d'éviter. Mais non, la concurrence, en tout cas, personnellement, j'ai jamais été dedans. Parce que je pense, enfin, je suis sportive à la base, et pour moi, la concurrence, elle est avec soi-même. Et chacun a sa place, quoi. Enfin, surtout moi, je pense que personne peut. La prochaine personne qui est rasta noire et homosexuelle, qu'elle m'appelle. Franchement. Mais je pense qu'il y a un peu tout le monde à sa personnalité, quoi. Ouais.
Donc, il y a des humoristes avec qui vous êtes amis?
Ouais, ouais, il y a des humoristes avec qui je suis amie. Il n'y en a pas 15 000, il y en a un. En fait. Et c'est Virino. Je suis très amie avec Virino. Après, je suis pote avec tout le monde. J'ai plein de gens. J'ai, peut-être d'autres que vous connaissez peut-être pas aussi, mais Dedo, Yacine, Navo, Kian sont des amis aussi. Effectivement, je dis non, mais des gens que vous connaissez, dont on ne demande qu'un regard. À part Navérino, non. Kevin Razi, ça reste un pote plus qu'un ami. Hein, c'est pas vrai. Et puis après, à côté, oui, ça va être plus le Jamel Comedy Club. J'ai gardé beaucoup d'amis là-bas. Yacine Nedo, donc Navo, qui est mon auteur.
D'accord.
Mon co-auteur plutôt. Qui est aussi écrit Bref.
D'accord.
Donc Yann, que j'en dis, toute cette famille-là, ce sont les amis. Ouais.
Ok.
Ouais, effectivement. On peut aller boire des verres et à la maison et s'appeler le soir, très tard. Donc ça, c'est des amis, je crois.
Oui. Et les humoristes qui vous ont influencé ou qui vous influencent encore aujourd'hui, il y en a des hommes, des femmes?
Les deux, mais plus aux États-Unis qu'en France, puisque stand-up en France est tellement jeune que aujourd'hui je peux pas vous donner de grands exemples de stand-uppers qui ont réussi en France.
Ouais.
Il y en a pas encore. J'ai l'impression qu'on est un peu dans les années 80 où le rap arrivait en France. Voilà, c'est un peu ça pour le stand-up. Il faut se battre et dire qu'on a des trucs à dire.
Ouais.
Et aujourd'hui, le rap est la musique qui se vend le mieux. Donc,
mais Jamel Debbouze a fait beaucoup pour le stand-up.
Énormément pour le stand-up, tout à fait.
C'est énorme.
Mais pour moi, il ne fait pas forcément, lui, beaucoup de stand-up.
Oui.
Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais donc, en termes d'un... Oui, c'est énorme ce qu'il a fait. C'est même super ce qu'il a fait. On a un très beau théâtre Comedy Club, des occasions de jouer en tournée. Moi, j'ai fait la tournée de Jamel Comedy Club pendant 2 ans. Ouais. On a fait des grosses salles énormes.
Ouais.
Le Casino de Paris, le Grand Rex, le Marrakech du Rire, les grands hôtels... Des bœufs, enfin, tout ça quoi. Cool quoi.
Dishes in the sink, TV's in repair, rolling.
pluriel gay.
Vous avez parlé du sport tout à l'heure.
Oui.
J'ai vu que vous aviez passé un an
aux États-Unis, oui.
Pour faire du basket.
Tout à fait.
C'est ça. C'était dans une équipe.
C'était la Madison High School. Oui. C'était high school, un lycée, pardon.
Oui.
J'étais en club là-bas. J'ai fait 10 ans de basket et ma dernière année, je l'ai passée aux États-Unis parce que j'ai fait un stage de 2 semaines de basket aux États-Unis avec des Français.
Oui.
Et j'étais repérée là-bas. Donc je suis restée finalement.
D'accord.
Enfin, j'ai fait les démarches pour rester. Je suis retournée, j'ai habité un an et le but était de passer en université. En fait, j'ai fait un an d'high school de lycée parce que en France, j'avais pas eu le bac. J'avais
D'accord.
pas eu mon équivalent. Donc, je cherchais à tricher. voilà. Et donc, j'avais réussi à tricher pour passer directement en université. Et j'avais été acceptée en université gratuitement parce que je jouais bien. Mm. Mais du coup, bizarrement, j'ai préféré revenir en France.
Oui.
Au bout d'un an, j'avais fini mon cycle de basket, quoi, de sport. J'avais envie de passer au théâtre que j'avais commencé à 8 ans à faire des téléfilms, des pubs, et j'avais toujours ça en tête, quelque part dans ma tête. Et du coup, je me suis dit non, j'ai envie d'arrêter là et puis de me mettre au théâtre, entrer à Paris, passer mon bac. Donc j'ai eu passé un bac scientifique que j'ai pas eu. Je suis allée aux États-Unis et quand je suis revenue en France, j'ai dit je veux bien passer le bac à mon père, mais à condition que tu me fasses passer le bac littéraire. Donc il a tapé des pieds et des mains pour que je puisse directement terminer littéraire. Et je l'ai eu, donc, pour le coup, et les doigts dans le nez. Parce que j'ai jamais été fait pour les maths, mais mon père m'avait forcé à faire ça. Parce que voilà quoi.
Oui.
Il voulait faire ce qu'il n'avait pas pu faire, le calcul. Mais on est pareil là-dessus, on est très nuls.
Mais du coup, ça n'a pas été trop dur, la vie de sportive noire, homo au Texas?
Eh ben, en fait, je savais pas trop que j'étais homo à l'époque. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je le savais sans le savoir. J'attendais le moment où ça allait exploser, quoi. Mais j'étais tellement dans le sport que je calculais pas ça. Et non, au contraire, ce qui s'est passé, c'était incroyable. C'est que la dame qui m'a hébergée aux États-Unis, elle avait une fille de 15 ans, histoire très bizarre, une fille de 15 ans qui vivait chez son amie. Et moi, je comprenais pas. Donc, je vais voir cette fille de 15 ans chez son amie. Son amie s'avère être sa surveillante de collège,
ouais,
avec qui elle sort. Donc, c'est déjà dégueulasse, mon idée, par rapport au fait qu'elle a 15 ans. Mais du coup, c'est comme ça que j'ai découvert l'homosexualité. Et les Texans et les Texanes sont vraiment hardcore. Donc j'étais dans des boîtes homo, mais qu'on n'aura jamais en France, quoi. C'est des trucs de malade. Et là, j'ai dit, ah ouais, non, j'aime bien les filles quand même, c'est bien. J'ai eu un petit. Enfin, c'était des boîtes absolument énormes avec des espèces des trans, mais du videur à. Voilà.
Ah oui.
Il y a un peu de tout en même temps, et moi j'avais 17 ans, et je m'étais vraiment habillée en boîte pour aller telle une hétéro, quoi, avec la jupe, du coup je déteste mettre des jupes, j'avais tout fait pour être bien dans le moule, et j'arrive là, dans cette boîte gay, et là j'ai eu une révélation. Voilà, et donc je suis rentrée en France.
D'accord, ok. Ah oui, donc du coup l'image de la boîte de nuit gay au Texas, du coup c'est à l'opposé du coup, de l'image des conservateurs qu'on a, en général, l'image en France des Texans.
Oui, ouais, moi aussi, j'avais cette image des Texans. Mais j'ai même eu plein de problèmes avec des gens, des braquages, des choses assez violentes. Oui. Mais ces boîtes-là, il y a quand même...
Ils se lâchent, quoi.
Oui, il y a une grosse communauté black. Ouais. C'est des boîtes black gay,
ouais,
parce que tout est très communautarisé là-bas. Et pour le coup, donc, je traînais avec ces filles black, là, qui étaient des vrais bonhommes, quoi. Et donc elles m'ont moins pris la vie. J'ai pas fait l'amour là-bas, les gens veulent savoir, mais elles m'ont pris.
On voulait savoir. C'était ma prochaine question,
non,
merci.
C'est pas la bonne question. C'était en Seine-et-Marne, c'était beaucoup moins glamour. Je sais pas, le Texas, Seine-et-Marne.
Très bien. On en apprend pas mal, dedans,
ouais,
en fait. la première fois que vous avez parlé de votre publiquement, d'autre homosexualité,
c'était
médiatiquement, oui, c'était à quelle occasion
je me rappelle bien, c'était il y a pas si longtemps, c'était sur RMC avec Brigitte Lahaie. Alors Brigitte Lahaie, déjà qui m'invite, j'étais étonnée. Et donc après, j'ai compris. En fait, elle a totalement orienté toutes ses interviews là-dessus pour jusqu'à temps que le sorte, quoi. Du coup, je me suis. En fait, c'est très bizarre parce que j'ai jamais eu de problème à le dire à qui que ce soit dans mon entourage. D'ailleurs, je suis même bien lourde avec ça. Enfin, entre guillemets, c'est-à-dire que je vais même pas dire, tiens, je suis homo, je vais dire, ah, elle est bonne la meuf. Tu vois, il y a pas besoin d'en faire un cérémonial. Mais du coup, là, arriver comme ça, la question brute comme ça, en fait, elle m'a demandé qui est dans votre public, et je dis, c'est marrant, mon public est fait de tout, des petits, des vieux, des noirs, des jaunes, des homos. Et puis elle me dit, ah bon, mais comment vous savez que c'est homo? Et là, je dis, oh non. Et c'est marrant, j'ai
stressé. J'ai tombé dans le piège.
Mais j'ai stressé du oh non, surtout.
Ah oui.
Okay. Alors que c'est bien me dire
oui.
Parce que j'ai le guédard, tout simplement. Et je me suis dit, tiens, c'est un piège. Et j'ai regardé mon attaché de presse qui était parti, qui m'avait lâchement abandonné. Et du coup, j'ai été obligée de répondre à la question, mais d'une façon bizarre, quoi. C'est pas comme ça que je. Enfin, bon. Et en même temps, c'est fait. Et ce qui était drôle, c'est que voilà, je suis pas hyper connue non plus. Et tout de suite, j'ai eu dans le 20 minutes en Suisse, enfin partout, sur la façon commune, yaout, vous savez même pas qui je suis, laissez-moi tranquille.
Mais ça vous a fait peur, la suite des événements?
Non, ça m'a fait rire après. Ouais. Après, ça m'a fait rire. Alors, ensuite, maintenant, je vois qu'on me propose vraiment beaucoup de trucs de mots. Mm. Après, il n'est pas évident physiquement de me classer dans quelque chose, par exemple au cinéma, c'est pas évident de me classer, quoi. On n'arrive pas trop à voir ou mettre ce que. Je peux être hyper féminine, enfin je suis une comédienne quoi, donc je peux faire des tas de choses, mais je vais pas le faire dans la rue pour que les gens voient ce que je peux faire. Donc c'est vrai que souvent on me prend soit pour faire des petites jeunes, ou alors des homos quoi. Donc c'est ça que je l'ai limité par contre, c'est cet enfermement.
D'accord.
Parce qu'une comédienne hétéro peut très bien le faire.
Oui.
En fait, ça dépend de ce qu'on recherche chez une personne. Mais du coup, j'ai juste peur pour l'avenir que, enfin j'ai pas vraiment peur, hein, mais que ça m'enferme là-dedans. Mm. Quoi. Je suis pas. Je raconte des tas de choses ou autres, quoi. J'ai vraiment... Et puis surtout, je vais jamais dans des boîtes gays, je suis pas communautaire, en fait.
Oui, oui.
C'est-à-dire que même les gays, des fois, elles se posent la question, les filles, les lesbiennes se posent la question aussi, parce qu'elles n'en ont pas trop. Parce que je me dis, enfin voilà, je vis ma vie.
Oui, oui.
Ma copine, je la retourne dans un bar PMU, quoi, tu vois. C'est comme tout le monde.
En Seine-et-Marne,
non? En Seine-et-Marne, j'ai laissé celle de Seine-et-Marne, là. Ça sera tôt.
Mais donc, mais je reviens sur l'épisode Brigitte Lahaie.
Ouais.
Vos parents, votre famille,
ils savaient déjà.
Ils savaient déjà.
Ouais, ouais, ouais. En fait, il y a que ma mère que j'ai dû faire un coming out parce que mon père, c'est lui qui a grillé. Et c'était de toute façon aussi. Enfin, ça a été quand même une épreuve chiante pour moi parce que ça a été fait bizarrement. Bon, j'avais 18 ans, donc ça, quand je suis rentrée des États-Unis, ouais. Et vraiment juste après. Après la boîte du Texas, j'ai craqué. Et en fait, ma copine avait laissé un mot comme ça qui avait glissé dessous ma porte de chambre et qui était retrouvé dans le couloir. Donc ils l'ont trouvé et puis je me fais réveiller à 4
heures. Pas de bol déjà.
Voilà, c'est ça. Mais la vie, il n'y a pas de hasard. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce mot, j'aurais peut-être mis énormément de temps à le dire à mon père. Mm. Et du coup, je sais jamais je ne veux pas savoir ce qui serait passé. Quelque part, je me sens un peu lâche de pas avoir dit moi-même. Quoi. Mais c'était un peu tôt aussi à l'époque. Mais du coup, je ne saurais jamais ce qui s'est passé si moi j'avais fait vraiment comme Yot. Et ma mère, comme j'ai une relation un peu particulière avec elle, c'est-à-dire que je ne la vois pas beaucoup, oui. Ça ne m'a pas trop gêné de lui dire.
Oui.
Voilà. Mais mes parents le savaient déjà et je suis passée par un an de total refus. Mes parents sont musulmans, donc ça fait pas mal de barrières pour eux. Et au final, ça s'est très bien passé et ça se passera avec ma copine d'ailleurs aussi, et toutes mes copines d'ailleurs. Parce que du coup, j'ai cette fâcheuse tendance à présenter trop vite. Du coup, il y en a plein qui passent, mais mon père dit rien, je suis assez étonnée. Mais je pense qu'on a les mêmes goûts, c'est pour ça. Il est bien content. Il est bien la belle fille. Mais du coup, ouais, j'ai aucun problème, je cache à personne.
D'accord.
Ouais, donc du coup, tout va bien.
Vous êtes une tombeuse un peu.
Ouais.
Ah ouais, carrément.
Non, je suis pas une tombeuse, je suis une comment on dit
une épicurienne.
Ouais, et puis surtout une relou. C'est-à-dire que je lâche pas d'affaires. C'est
ça. Vous ne lâchez rien.
Du crack, quoi. C'est. Non, et puis j'ai eu cette façon tendance, comme beaucoup de lesbiennes, je pense à une période, à me tourner vers des hétéros, en fait, beaucoup. Mm. Donc, forcément, être le premier amour de ces nanas-là.
Oui.
Ce premier amour un peu particulier. Et du coup, c'est, donc vraiment, faut être relou pour réussir à faire ça, parce que souvent les nanas, je sais pas trop. Peut-être. Et puis au final, c'est elles qui veulent plus vous lâcher, quoi. Donc c'est vrai, il y a eu une espèce de mécanisme comme ça tout le temps. Ouais. Puis surtout, j'avais ce besoin de voilà, de ça faisait long. En fait, depuis que j'ai 5 ans, je pense que je le sais.
Oui.
Donc, le temps que ça. Voilà, j'avais besoin d'enchaîner grave. Enchaîner grave, pour être sûr. Mais maintenant, je suis beaucoup plus calme, chérie, qui m'écoute.
Mais donc, du coup, un jour, vous ne voudriez pas mettre vraiment tout ça dans un spectacle? Parler uniquement de ça?
Si j'en vois le...
De votre homosexualité, comment vous le vivez chaque jour, vraiment de votre vie personnelle?
Ouais, si, en fait, si j'en vois l'intérêt, je pense que en fait, ce que je fais dans ce spectacle-là, c'est que je parle de l'homosexualité, enfin, de l'accumulation. Je pense que bientôt, après, les gens sauront que je suis homo, de toute façon, et donc je pourrais raconter toute l'histoire de ma vie de tous les jours, sans avoir à repréciser à chaque fois.
Oui.
Mais c'est ce dont j'avais besoin pour pouvoir parler de ma vie intime, en fait. Parce que souvent, je dis, moi, les histoires de couple, ça ne m'intéresse pas de raconter ça sur scène. Ouais. Ça ne m'intéresse pas parce que ça ne me parle pas, surtout. Dire les hommes, les ceci, les filles, cela, je m'en fous. mais aussi d'un coup arriver sur scène et puis dire donc je vous disais ma copine par rapport à... voilà, il faut remplacer les choses. Et ce sketch là je l'ai fait parce que j'y voyais un intérêt et parce qu'il tombait vraiment en plus à un moment de l'actualité où il fallait vraiment parler et du coup c'est pour ça que j'ai sorti là pour l'instant je vois pas trop d'intérêt de faire tout un spectacle dessus. En plus Océane Rosemary l'a très bien fait, je trouve. Bon, c'est sa vie et encore une fois c'est très large ce qu'elle fait là-dessus.
C'est très large, oui, c'est pas...
C'est général,
oui, ouais, c'est général. Ouais.
Mais disons que j'ai tellement peu de conflits avec ma sexualité. Parce que souvent, quand on écrit un sketch, c'est parce qu'il y a du conflit, il y a quelque chose à...
On doit sortir, faire sortir quelque chose.
Et, comme moi, j'ai pas ce truc-là, c'est compliqué. Par contre, après, oui, ma copine est très marrante, j'ai envie de raconter des tas de choses sur ma copine, parce qu'elle est marrante, mais ça aurait été un mec, ça aurait été pas, et j'aurais envie de raconter. Donc du coup, non, je me dis, là, il n'y a pas grand-chose à dire de plus... que c'est ce que je raconte dans ce spectacle pour l'instant, en tout cas.
D'accord.
Mais peut-être qu'une autre fois, je raconterai d'autres choses. J'ai des tas de trucs dans la tête que j'ai envie de garder.
D'accord. La suite des événements, donc, ce sera une tournée.
Une tournée à la rentrée à partir de septembre avec donc, le groupe qui s'appelle The Crooks.
Oui.
Et donc, c'est un spectacle musical, humour musical. Et on va partir en tournée, effectivement. On sera aussi à Paris. Alors, en janvier 2015, pendant 3 mois, je ne peux pas encore faire la salle, malheureusement. Mais du coup, voilà, on a une belle, au moins 2 belles années qui arrivent là, avec ce spectacle. Et je suis vraiment très très fière de ce spectacle. C'est la première fois que je peux dire que je suis fière de moi sur quelque chose. Parce que déjà, je ne suis pas toute seule, donc c'est plus facile pour moi de dire que je suis fière.
Oui.
Mais parce qu'il touche vraiment à quelque chose que je voulais faire depuis très très longtemps. Et même si j'ai 27 ans, hein, donc je suis très jeune. Mais très longtemps, vraiment, depuis mon enfance, j'ai cette envie de mélanger de l'humour et de la musique sur scène. Et ça, on me l'a rappelé, des amis d'enfance m'ont rappelé, ils m'ont dit, mais c'est fou que tu aies pu le faire. Et en fait, mon inconscient a travaillé, parce que je ne m'en rappelais plus, moi-même, que ça faisait si longtemps. Et donc, je suis vraiment très fière de ce spectacle, parce qu'il parle de liberté dans ce temps présent, et que je crois qu'on est dans un monde où vraiment, hein, je suis personne. On dit, ne citez pas Bouddha, soyez Bouddha, mais dans un monde de très, très triste. En tout cas, je parle de la France. Je pense que le monde est un peu pareil partout, mais. L'être humain s'est perdu un peu. L'être humain devient un peu une machine et on n'est plus lié à la nature, connecté aux choses. Et donc, le chemin, il devient de plus en plus court, je trouve. Alors que, voilà. Bon. Et du coup, c'est vrai que voilà, ce spectacle les permet de libérer certaines choses. Je le sens, en fait. Je sens que c'est ce que je voulais faire avec le public, quoi. Mon but, c'est pas forcément de faire rire. Que faire rire? Rire pour rire, c'est pas très intéressant, en fait. C'est comme pleurer pour pleurer. Non, mais il faut lâcher des choses pour lâcher des choses, mais au bon endroit et au bon moment. Donc, du coup... Là, je suis contente.
Et votre premier spectacle, il y a un DVD prévu, non?
Oui, et qui arrive là à la rentrée de septembre.
Ouais.
Du DVD SketchUp, quoi.
SketchUp, ouais.
Tout à fait. Et puis certainement une diffusion sur Comédie avant décembre, je pense.
D'accord. Ouais. Ok, très bien. Du coup, là, vous jouez bientôt, là?
Ouais, quelle heure?
Il est 18h.
Oh, ça va, on est large, ouais. Je vais juste apprendre mon texte, et puis c'est bon.
Un peu non, de stress, mais... le track.
Bah ça fait, comme je disais, ça fait un mois que j'ai pas joué.
Ouais.
Et quand ça fait un mois, c'est long pour un humoriste, un mois. C'est très très long. En fait, moi j'ai monté ma production de spectacle parce que j'avais envie vraiment d'être libre jusqu'au bout. Dans ma démarche de ce que je raconte, c'est vraiment une vraie liberté. Mais ça prend un temps fou. Et là, je suis plutôt à la tête à des tableaux Excel. Et c'est terrible parce qu'il faut absolument que j'arrête là et que je me concentre sur l'humour. Mais c'est assez schizophrénique ce double emploi-là. Mais du coup, bientôt, je ne serai que artiste, parce que j'ai trouvé quelqu'un pour me remplacer, mais ça fait un an que je suis sur ce projet-là, donc c'est vrai que là, en ce moment, c'est mon gros défi.
Okay. Je vous dis merde, non? Ça se dit
je
merde
prends.
Ok. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Pluriel Gay. Pluriel Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Et bien voilà, mon petit Bernard, l'émission se termine. Donc je rappelle Shirley Soignon que nous venons d'entendre. Ça, c'était l'an dernier, interviewé par Laurence. Sera de retour à Lyon, donc cette année, dans le cadre du festival You Humour, donc qui a lieu les 9 et 10 juin 2016 au Radiant Bellevue à Caluire et Cuire. Pour le reste, je tenais à remercier Gilles qui a fait le montage de toutes les interviews que nous avons entendues ce soir d'ailleurs. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec une émission. Alors, tu sais que l'Euro va commencer, Bernard, l'Euro de foot. Et ben, la semaine prochaine, on parlera de sport, d'homosexualité. Voilà, je t'en dis pas plus. On se retrouve la semaine prochaine. Je remercie tout le monde. Je te remercie, Bernard, d'être venu. Je remercie nos auditrices, nos auditeurs. d'être fidèles au rendez-vous et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Je rappelle que l'émission sera en podcast sur les radioblogs, l'audioblog de Arte et également sur le site de plurielgay.fr, le site de l'émission. Merci Bernardo, à la semaine prochaine, merci à tous. Maintenant tu vas nous mettre une petite musique de fin. Voilà.
Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.